Chapitre 35. Le Big Bang. Nous aussi sommes poussière d'étoiles.
Hilde s'installa confortablement dans la balancelle à côté de son père. Il était presque minuit. Ils laissèrent longtemps leurs regards flotter sur la mer, tandis que dans le ciel brillait la faible clarté des étoiles. Ils entendaient le doux clapotis des vagues contre les rochers montés jusqu'à eux. Ce fut son père qui brisa le silence. « Ça fait drôle de penser que nous vivons sur une petite planète perdue dans l'univers. » « Oui, la Terre n'est qu'une des nombreuses planètes qui tournent autour du Soleil. Et pourtant, seule notre planète est vivante. »« Elle est la seule dans tout l'univers ?»« Oui, il y a de fortes chances. Mais il se peut que l'univers bouillonne de vie, car l'univers est immensément grand. » Les distances sont telles que nous les mesurons en minutes-lumière et en années-lumière. Ça veut dire quoi exactement? Une minute-lumière est la distance que parcourt la lumière en une minute. Et c'est beaucoup quand on sait que la lumière parcourt 300 000 km en une seule seconde. Ce qui fait qu'en une minute, la lumière parcourt 60 fois 300 000 km. C'est-à-dire 18 millions de kilomètres. Quant à l'année-lumière, cela fait presque 10 billions de kilomètres. Quelle distance y a-t-il jusqu'au Soleil? Un peu plus de 8 minutes-lumière. Les rayons qui chauffent notre joue par une belle journée de juin ont par conséquent voyagé dans l'univers pendant 8 minutes avant de nous atteindre. Continue. Pluton, la planète la plus éloignée de notre système solaire, se trouve à plus de 5 heures-lumière de nous. Quand un astronome aperçoit Pluton dans son télescope, il observe en réalité quelque chose tel qu'il était 5 heures auparavant. En d'autres termes, l'image de Pluton met 5 heures à arriver jusqu'à nous. C'est un peu difficile à s'imaginer, mais je comprends dans les grandes lignes. Tant mieux, Hilde. Mais nous avons tout juste commencé à nous orienter, tu sais. Notre propre Soleil est une des 400 milliards d'étoiles dans cette galaxie que nous avons appelée la Voie lactée. Cette galaxie ressemble à un grand disque constitué de plusieurs bras en forme de spirale, et notre Soleil est sur un de ces bras. Si nous observons le ciel par une claire nuit d'hiver, nous voyons une large ceinture d'étoiles, parce que nous traversons tous ces anneaux du regard vers le centre de la Voie lactée. Ce qui explique à présent pourquoi la Voie lactée se dit « le chemin d'hiver » en suédois. Notre plus proche étoile dans la Voie lactée est située à 4 années-lumière. Qui sait si ce n'est pas cette étoile que nous apercevons au-dessus de cette île là-bas? Imagine un astronome nous observant d'un puissant télescope de là-bas. Il verrait Bjerkeli comme c'était il y a 4 ans. Il verrait peut-être une petite fille de 11 ans se balancer dans le jardin en battant des jambes. C'est stupéfiant. Et encore, je ne te parle que de la plus proche étoile. Ce brouillard d'étoiles, comme nous l'appelons, s'étend sur 90 000 années-lumière. C'est le temps que mettra la lumière pour aller d'un bout à l'autre de notre galaxie. Quand nous regardons une étoile située dans la Voie lactée à plus de 50 000 années-lumière du Soleil, nous regardons 50 000 années en arrière. J'ai mal à la tête rien que d'y penser. Quand nous observons l'univers, nous regardons en fait le passé. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous n'avons aucun moyen de connaître l'univers comme il est. Nous pouvons seulement le connaître tel qu'il était. L'étoile que nous apercevons à des milliers d'années-lumière nous permet en réalité de voyager dans l'histoire de l'univers en remontant dans le temps. C'est difficile à concevoir. Tout ce que nous voyons, nous le percevons parce que des ondes lumineuses parviennent à nos yeux. Et ces ondes lumineuses mettent du temps à parcourir l'espace. On peut faire une comparaison avec le tonnerre. On entend toujours le grondement du tonnerre après avoir vu l'éclair. Car quand j'entends le tonnerre, j'entends le bruit de quelque chose qui s'est déjà passé il y a un moment. C'est la même chose avec les étoiles. Quand j'aperçois une étoile située à des milliers d'années-lumière de nous, c'est comme si je voyais le tonnerre d'un événement qui s'est produit des milliers d'années plus tôt. Je comprends. Mais nous n'avons jusqu'ici parlé que de notre propre galaxie. Les astronomes estiment qu'il existe une centaine de milliards de ces galaxies au sein de l'univers. Et chacune de ces galaxies est composée d'une centaine de milliards d'étoiles. La galaxie la plus proche de la Voie lactée est ce qu'on appelle la nébuleuse d'Andromède. Elle se trouve à 2 millions d'années-lumière de notre propre galaxie. Comme nous l'avons vu, cela revient à dire que la lumière de cette galaxie met 2 millions d'années à venir jusqu'à nous. Cela veut aussi dire que nous remontons 2 millions d'années dans le temps quand nous observons le nuage d'Andromède là-haut dans le ciel. Et si un petit futé pouvait nous observer de là-bas avec son télescope, tiens, je l'imagine très bien tout là-haut. Ce n'est pas nous qu'il verrait. Il pourrait tout au plus apercevoir quelques ancêtres de l'homme au cerveau minuscule. C'est terrible ! Les plus lointaines étoiles que nous connaissons aujourd'hui se trouvent à environ 10 milliards d'années-lumière de nous. Quand nous captons des signaux de ces galaxies, nous regardons par conséquent 10 milliards d'années en arrière dans l'histoire de l'univers, ce qui correspond à presque deux fois le temps d'existence du système solaire. Ça me donne le vertige. Il est bien sûr difficile de se représenter de telles unités de temps et d'imaginer qu'on remonte si loin dans le passé. Mais les astronomes ont trouvé quelque chose qui a encore une plus grande importance pour notre conception du monde. Qu'est-ce que c'est ? Il s'avère qu'aucune galaxie dans l'univers n'est immobile. Toutes les galaxies dans l'univers se déplacent à toute vitesse les unes par rapport aux autres. Plus elles sont éloignées de nous, plus elles paraissent se mouvoir rapidement. En d'autres termes, la distance entre les étoiles devient de plus en plus grande. J'essaye de me représenter tout ça. Si tu dessines des ronds noirs sur un ballon et que tu le gonfles, tu verras ces ronds noirs progressivement s'éloigner les uns des autres. C'est la même chose que les galaxies de l'univers. Nous disons que l'univers est en expansion. À quoi c'est dû? La plupart des astronomes s'accordent à reconnaître une seule explication à l'expansion de l'univers. Il y a environ 15 milliards d'années, toute la matière de l'univers se trouvait ramassée dans un tout petit espace. La matière avait alors une densité inimaginable, et la pesanteur ainsi que la chaleur atteignaient des sommets inimaginables. D'un seul coup, tout explosa. Cette explosion, on l'appelle l'explosion originelle, en anglais de Big Bang. Y penser me donne la chair de poule. Toute la matière se trouva projetée dans l'univers dans toutes les directions. Et en se refroidissant, cette matière donna les étoiles, les galaxies, les lunes et les planètes. Mais tu as dit que l'univers continuait à s'étendre. C'est justement la conséquence de ce qui s'est produit il y a des milliards d'années. Car l'univers n'a pas de topographie intemporelle. L'univers est un événement, une explosion. Et les planètes continuent à s'éloigner les unes des autres à toute vitesse. Et ce sera comme ça jusqu'à la nuit des temps ? C'est une possibilité parmi d'autres. Tu te souviens peut-être qu'Alberto parla à Sophie de deux forces qui, réunies, font que les planètes tracent une trajectoire constante autour du Soleil ? Oui, la loi de la gravitation et la loi d'inertie, n'est-ce pas ? La même chose se produit pour les galaxies. Car bien que l'univers continue à s'étendre, la pesanteur agit dans l'autre sens. Et un jour, dans quelques milliards d'années, quand l'effet du Big Bang commencera à décroître, la pesanteur rapprochera peut-être à nouveau les corps célestes. Nous aurons alors le contraire d'une explosion, c'est-à-dire une implosion. Mais ce n'est pas pour demain, étant donné la mesure du temps de l'univers. C'est comme un film au ralenti infini. Imagine, si tu préfères, un ballon qui se dégonflerait tout doucement. Est-ce que toutes les galaxies vont s'aspirer mutuellement et se concentrer en une seule masse à nouveau ? Oui, tu as compris. Mais après, il y aura peut-être une nouvelle explosion qui permettra à nouveau à l'univers de s'étendre. Parce que les lois physiques resteront toujours les mêmes. Et ainsi de nouvelles étoiles et de nouvelles galaxies devraient se former. C'est un bon raisonnement. En effet, concernant l'avenir de l'univers, les astronomes envisagent deux cas de figure. Soit l'univers continuera à s'étendre indéfiniment de sorte que les galaxies seront de plus en plus éloignées les unes des autres, soit l'univers va se ramasser sur lui-même. Ce qui est décisif, c'est la masse de l'univers, et c'est encore une inconnue pour les astrophysiciens. Mais on peut alors imaginer que l'univers s'est déjà plusieurs fois étendu puis ramassé sur lui-même? C'est un raisonnement fort séduisant. Mais là aussi, il y a une autre possibilité, à savoir que l'univers ne s'étend qu'une seule fois. S'il s'étendait ainsi pour l'éternité, la question sur l'origine du monde serait entièrement à reconsidérer. Et d'où vient ce qui a explosé? Pour un chrétien, l'explosion originelle est considérée comme le moment de la création du monde. Il est écrit dans la Bible que Dieu dit « que la lumière soit ». Tu te rappelles peut-être qu'Alberto montre que le christianisme a une vision linéaire de l'histoire. D'un point de vue chrétien, il serait logique de penser que l'univers continuera à s'étendre. Ah bon? En Orient, on a davantage une conception cyclique de l'histoire. On pense que l'histoire se répète indéfiniment. Il existe, par exemple, en Inde, une vieille croyance selon laquelle le monde s'étend en permanence jusqu'au moment où il se ramasse sur lui-même. Ainsi alterne ce que les Indiens appellent le jour de Brahma et la nuit de Brahma. Cette croyance correspond bien sûr davantage à un processus cyclique de l'univers. Il faut s'imaginer un gros cœur cosmique qui bat et bat. Je trouve les deux théories aussi passionnantes et inconcevables l'une que l'autre. Et on peut les comparer au grand paradoxe sur l'éternité, tel que le présentait Sophie. Soit l'univers a de tout temps existé, soit il est né tout à coup, à partir de trois fois rien. Aïe ! Hilde se toucha le front. Qu'est-ce que c'était ? J'ai cru que j'avais été piquée par un temps. Qui sait si ce n'était pas Socrate qui essayait de te sortir de ta torpeur?
Sophie et Alberto étaient restés assis dans la voiture de sport à les écouter disserter sur l'univers. Est-ce que tu t'es rendu compte que les rôles sont à présent inversés? Demanda Alberto après un moment. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Avant, c'était eux qui nous épiaient, et nous ne pouvions pas les voir. Maintenant, c'est nous qui les épions, et eux ne peuvent pas nous voir. Et ce n'est pas tout. À quoi penses-tu? Au début, nous ne savions pas qu'il existait une autre réalité dans laquelle vivaient Hilde et le Major. Maintenant, c'est eux qui ignorent notre réalité. Ah, ça fait du bien de se venger un peu. Mais le Major pouvait intervenir dans notre monde. Notre monde n'était pas autre chose que son intervention. Je ne veux pas abandonner tout espoir de pouvoir aussi intervenir dans leur monde. Mais tu sais bien que c'est impossible. Tu ne te rappelles pas la scène au café Cinderella? Je te revois très bien t'échiner à soulever la bouteille de Coca-Cola. Sophie resta silencieuse et écouta le Major parler du Big Bang. Quelque chose dans cette expression lui donna une idée. Elle se mit à fouiller la voiture. Qu'y a-t-il? Demanda Alberto.
Rien.
Elle ouvrit la boîte à gants où elle trouva une clé anglaise, sortit de la voiture et vint se planter devant Hilde et son père. Elle essaya de capter le regard de Hilde, mais c'était impossible. Alors, elle leva la clé anglaise bien haut au-dessus de sa tête et asséna un grand coup sur le front de Hilde.
« Aïe !»
cria Hilde. Sophie s'empressa de faire la même chose avec le major, mais il n'eut aucune réaction. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il.
« Je crois que j'ai été piqué par un temps. »
« Qui sait si ce n'était pas Socrate qui essayait de te sortir de ta torpeur ?»
Sophie se coucha dans l'herbe et essaya de donner des coups de pied dans la balancelle. Mais elle ne bougea pas d'un pouce. Ou avait-elle tout de même bougé d'un millimètre ?«
Je commence à avoir des frissons dans le dos, »
dit Hilde.
« Voyons. » Il fait si doux ce soir.
Ce n'est pas ça. Je sens comme une présence.
Nous ne sommes que tous les deux dans cette douce nuit d'été.
Non, il y a quelque chose dans l'air.
Que veux-tu que ce soit?
Tu te souviens du plan secret d'Alberto?
Comment pourrais-je l'oublier?
Ils disparurent de la fête et c'était comme si la terre les avait engloutis.
Mais
comme si la terre les avait engloutis.
Il fallait bien arrêter l'histoire à un moment. Oh, tu sais, ce ne sont que des mots.
Ces mots-là, oui, mais pas ce qui s'est passé ensuite. Et s'ils étaient ici, maintenant?
Tu crois ça?
Je le sens, papa.
Sophie retourna vers la voiture en courant. Impressionnant, dut avouer Alberto quand elle remonta dans la voiture avec la clé anglaise. Cette fille doit avoir des dons particuliers.
Le major passa son bras autour de Hilde. Tu entends comme les vagues font un drôle de bruit ce soir.
Oui.
Demain, il faudra mettre la barque à l'eau.
Mais tu entends comme le vent semble murmurer quelque chose? Regarde comme les feuilles du hêtre tremblent.
C'est ça, une planète vivante.
Tu as écrit quelque chose à propos de ce qui se trame entre les lignes.
Ah bon?
Il y a peut-être quelque chose entre les lignes dans ce jardin aussi.
La nature est en tout cas pleine d'énigmes. Nous étions en train de parler des étoiles dans le ciel.
Bientôt, il y aura des étoiles dans l'eau aussi.
C'est ce que tu appelais la lumière des étoiles quand tu étais petite. Tu n'avais pas tort en un sens, car tous les organismes sur la Terre viennent de matières premières qui ont autrefois servi à former une étoile.
Nous aussi?
Oui, nous aussi sommes poussière d'étoiles.
C'est poétique.
Quand les radiotélescopes captent la lumière qui provient de galaxies situées à des milliards d'années-lumière, ils établissent la carte du monde telle qu'il a été à l'origine, juste après le Big Bang. Tout ce qu'un homme peut observer dans le ciel, ce sont des fossiles cosmiques qui remontent à des milliers et à des millions d'années. La seule chose que puisse faire un astrophysicien, c'est de lire dans le passé.
Parce que les étoiles d'une constellation se sont éloignées les unes des autres avant que leur lumière ne nous parvienne?
Il suffit de remonter à quelques millénaires pour constater que les étoiles étaient notées à un autre emplacement qu'aujourd'hui.
Je ne savais pas.
Si la nuit est claire, nous remontons des millions, oui, des milliards d'années dans le temps, dans l'histoire de l'univers. Nous regardons en quelque sorte en direction de là d'où nous venons.
Explique-toi mieux.
Nous aussi, nous sommes issus du Big Bang. Car toute la matière de l'univers est une unité organique. En regardant le ciel, nous essayons de retrouver le chemin qui nous a fait naître.
C'est une drôle de façon de dire les choses.
Toutes les étoiles et les galaxies dans l'espace sont formées de la même matière. Il peut y avoir des milliards d'années-lumière d'une galaxie à l'autre, mais toutes ont la même origine. Toutes les étoiles et les planètes sont de la même famille.
Je comprends.
Quelle est cette matière du monde? Qu'est-ce qui a explosé un jour, voici plusieurs milliards d'années? D'où venait cette matière?
Cela reste la grande énigme.
Mais il y a quelque chose qui nous concerne directement. Car nous sommes faits de cette matière. Nous sommes une étincelle de ce grand feu qui a embrasé l'univers il y a plusieurs milliards d'années.
Ça aussi, c'est plutôt poétique.
Mais nous ne devons pas nous laisser emporter par tous ces chiffres. Il suffit de tenir une pierre dans sa main. L'univers aurait été tout aussi inconcevable s'il s'était limité à la taille de cette pierre, pas plus grosse qu'une orange. La question cruciale serait restée la même. D'où vient cette pierre?
Sophie se redressa soudain et montra du doigt la mer.
« J'ai envie d'essayer la barque !» s'écria-t-elle.
« Elle est amarrée. De toute façon, nous ne pourrions même pas soulever les rames. »«
Et si on essayait quand même? Allez, c'est la Saint-Jean !»«
On peut toujours descendre au bord de la mer. » Ils sortirent de la voiture et traversèrent le jardin en courant. Sur la jetée, ils tentèrent de desserrer les amarres qui étaient attachées à un anneau d'acier, mais ils ne purent même pas soulever une extrémité de la corde.
« C'est comme si c'était cloué !» dit Alberto.
« Mais on a du temps devant nous. »
« Un vrai philosophe ne s'avoue jamais battu, je sais. »
« Ah, si seulement on pouvait soulever ça !»«
Il y a encore de nouvelles étoiles dans le ciel !» dit Hilde, Oui, c'est parce que la nuit d'été est d'un noir intense à présent. Mais en hiver, elle brille d'un éclat particulier. Tu te rappelles la nuit avant que tu ne partes au Liban? C'était le 1er janvier. C'est ce jour-là que je me suis décidée à t'écrire un livre de philosophie. J'étais allée dans une grande librairie à Kristiansand et à la bibliothèque, mais je n'ai trouvé aucun livre de ce genre pour les jeunes. On dirait que nous sommes assis tout à l'extrémité d'un des poils tout fins de la fourrure du lapin blanc. Crois-tu qu'il existe quelqu'un là-bas à des années-lumière d'ici? Oh, regarde, la barque s'est détachée. Ça alors? C'est impossible. J'étais tout à l'heure en bas et j'ai moi-même contrôlé que les amarres étaient bien fixées juste avant ton arrivée. Vraiment? C'est comme lorsque Sophie avait emprunté la barque d'Alberto et qu'elle l'avait laissée dériver au beau milieu du lac. Tu te rappelles? Qui te dit qu'elle n'a pas encore fait des siennes? Tu dis ça en plaisantant. Moi, j'ai senti comme une présence toute la soirée. Il va falloir aller récupérer la barque à la nage. On y va ensemble, papa ?